Chapitre 19. Découragement. La jolie Polly revint au petit jour au port de Kensington-sur-Hull, ayant à son bord Carter, transi et découragé, pour ne pas dire humilié par son insuccès. Après avoir été jouée par une jeune fille, dont le dévouement pour le misérable qu'elle appelait son père l'avait transformée en héroïne, être tombée aussi facilement dans le piège qu'on lui avait tendu, tout en ayant la conviction intime de sa propre habileté, était au moins décourageant pour un agent de première classe du service de sûreté. Et ce drôle de Valence, songeait Carter, qui va s'imaginer de se noyer pour me jouer un mauvais tour. C'eût été un dédommagement pour moi que de le ramener. J'en aurais pu tirer quelque profit et quelque honneur. Mais non, il a préféré tomber à l'eau plutôt que de m'être agréable. Il ne restait plus à Carter qu'à revenir directement à Lisford et recommencer la partie avec toutes les chances contre lui. « Quoi que je fasse, pensait-il, Wilmot aura toujours 48 heures d'avance sur moi, et il n'est rien qu'il ne puisse faire dans ces conditions-là, s'il garde son sang-froid et s'il ne commet pas les folies que font volontiers les gens de sa sorte quand il leur arrive une chance pareille. Quoi qu'il arrive, cependant, je ne lâcherai pas, et ce sera bien extraordinaire s'il réussit à m'échapper, car je suis surexcité, ma réputation dépend de mon succès. » Et je me soucierai autant de traverser l'Atlantique pour le rejoindre que de passer le pont de Waterloo. Il faisait froid lorsque, au petit jour, la jolie Polly vint s'amarrer au degré de granit qui terminait le quai. Le temps était glacial, et Carter était mouillé, ses vêtements étaient malpropres, et sa barbe longue, lorsqu'il monta d'un pas rapide les marches humides conduisant au quai. Il donna aux deux jeunes pêcheurs les 5 livres qu'il leur avait promises et les laissa s'applaudissant de leur besogne nocturne, si pauvre de gloire qu'elle fut. Il n'était pas possible de se procurer une voiture à cette heure matinale. Aussi Carter fut-il obligé de se rendre à pied du quai à la gare, où il comptait retrouver Tibbles, ou tout au moins avoir des nouvelles de ce gentleman. Il ne fut pas déçu, car quoique la gare eût un aspect lugubre et eût à peine commencé à donner signe de vie pour effectuer le départ d'un train de marchandises, il trouva son fidèle compagnon promenant mélancoliquement dans un désert de voitures vides et de machines éteintes la pâleur cadavéreuse de son visage, révélée cependant par un nez rougi par la brise. Tibbles n'était pas précisément d'une charmante humeur par cette froide matinée. Il agitait les bras et battait la semelle, et il continua ses 2 exercices tout en causant avec son supérieur d'un air irrespectueux, sinon moqueur. « Vous me faites jouer un joli jeu, » dit-il d'un ton vexé. « Vous m'avez dit de veiller à la gare et que, dans le courant de la journée, vous viendriez me prendre et que nous dînerions convenablement ensemble à l'hôtel de la gare. » « Oui, va-t'en voir s'ils viennent, » continua Tibbles, avec une ironie amère dans la voix et dans le regard. « Allons, allons, Saunay, ne prenez pas mal la chose, » dit Carter d'un ton caressant. « Je voudrais bien savoir qui est celui qui la prendrait bien, hein ?» répondit Tibbles, indigné. « Vous auriez eu affaire à un ange, ce qui malheureusement n'est pas possible, car ce serait la ruine de la profession. » Vous auriez eu affaire à un ange qui l'aurait perdu patience s'il avait enduré ce que j'ai enduré. Posé dans cette gare exposée à tous les vents et où il y a assez de courant d'air pour faire croire à un ignorant que la rose des vents a au moins 17 divisions. Posé là, guettez les trains les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à guetter que les commissionnaires ou les bagages. Ou bien passez son temps au café de l'hôtel là-bas pour savoir l'heure du train suivant. Et tout ça pour tenir la parole qu'on a donnée à son patron, c'est la plus amère des dérisions. » Carter emmena son subordonné outré au café de l'hôtel de la gare, où Tibbles avait loué une chambre pour la nuit et où il avait pris quelques instants de repos dans l'intervalle séparant l'arrivée du dernier train du départ du premier du lendemain. L'agent fit apporter un déjeuner substantiel, qu'il fit précéder de 2 verres d'excellent cognac, et, sous l'influence du jambon, des œufs, des côtelettes de mouton, d'une sole au gratin et du café bouillant, le calme ne tarda pas à se rétablir dans l'esprit de Tibbles. Carter expliqua brièvement à son compagnon qu'il avait perdu son temps et sa peine à suivre une fausse piste et qu'il fallait abandonner l'entreprise. Sauney accueillit ces nouvelles avec force grincement de dents et mordillement de lèvres, et avec une expression de doute dans son œil rouge et terne. Il accepta cependant la récompense que lui offrit son patron et convint de retourner à Londres par le train de 10 heures. « Et maintenant, quoi que j'entreprenne pour mener cette affaire à bien, je l'entreprendrai sans secours étrangers », se dit Carter à lui-même. Le soir du même jour, à 5 heures, l'agent se trouvait de nouveau à la station de Shorncliffe. Il prit une voiture et se fit conduire rapidement au cottage de Lisford. La jolie petite habitation de l'officier de marine était absolument dans le même état où Carter l'avait laissée, excepté qu'à une des fenêtres supérieures était fixée une large pancarte indiquant que la maison était allouée meublée et qu'on pouvait se procurer tous les renseignements chez Hogson, épicier à Lisford. Carter se prit à siffler. « L'oiseau s'est envolé, » dit-il à voix basse. Il n'était pas probable qu'il eût attendu ici qu'on vînt le prendre. L'agent sonna une fois, deux fois, trois fois, mais on ne répondit pas à son appel. Il longea la haie qui bordait le jardin des communs, où il y avait une petite porte de bois fermée au cadenas, mais si basse qu'il l'escalada facilement et pénétra au milieu des haies d'aubépine, des petites fleurs sablées, et des plates-bandes de fraisiers odorants qui avaient fait longtemps les délices de l'officier de marine. Carter regarda par les fenêtres qui ouvraient sur le derrière de la maison, et il n'aperçut que des chambres vides. Il écouta, et il n'entendit aucun bruit de pas ou de voix. Les volets étaient ouverts, et il pouvait apercevoir les murailles dégarnies des chambres, les foyers sans feu, et cet aspect particulièrement froid qui est le propre des maisons inoccupées. Il poussa un gémissement. « Parti, » murmura-t-il, « parti, tout ce qu'il y a de plus parti. » Il rejoignit sa voiture et se fit conduire à l'établissement de l'épicier en gros, propriétaire de la seule boutique du village de Lisford. Là, Carter apprit qu'on lui avait remis la clé de Woodbine Cottage, le soir de ce même jour où il avait vu Wilmot assis dans le petit salon. « Oui, monsieur, » dit Hogson, « c'est le soir d'avant-hier qu'une jeune fille, le visage enveloppé dans un mouchoir et vêtue très simplement, descendit d'une voiture à ma porte et me dit « Voudriez-vous être assez aimable pour vous charger de la clé que voici et pour montrer le cottage à toute personne qui voudrait le visiter ?» Bien entendu, on vous dédommagera de la peine que vous prendrez. Parce que, voyez-vous, mon maître va quitter le pays pour quelque temps, parce qu'il a son fils qui est revenu de l'Inde et qui s'est marié et établi dans le Devon. Il va passer quelque temps chez lui, parce que, voyez-vous, il y a longtemps qu'il ne l'a pas vu. Cette jeune fille était très polie, et il faut dire que les gens de Woodbine Cottage, les anciens comme les nouveaux, était d'excellente pratique pour nous, et comme vous pensez, j'ai pris la clé pour rendre service autant que possible. Si monsieur veut visiter le cottage... » « Vous êtes bien bon, » dit Carter d'un ton quasi dolent. « Je vous remercie, mais pas ce soir. À quelle heure, s'il vous plaît, la voiture s'est-elle arrêtée devant votre porte ?»«
Entre 7 et 8. »«
Entre 7 et 8 heures. » Juste à temps pour prendre le train-poste venant de Rugby. Dites-moi, était-ce une voiture de la Rose et la Couronne ?
Oui, monsieur, c'était une voiture de Lisford, ça j'en suis sûr, parce que c'était Tim Balling qui conduisait et qu'il m'a souhaité le bonsoir.
Carter quitta l'épicier de Lisford et courut à la Rose et la Couronne, où il trouva l'homme qui l'avait conduite à la station de Shorncliffe. L'homme lui apprit que la même jeune fille était venue le chercher le soir comme elle l'avait déjà fait le matin, et qu'il avait conduit un gentleman qui boitait comme le premier et dont le visage était également enveloppé. Il l'avait conduit non pas à la station de Shorncliffe, mais bien à la station du petit Petherington, située à 6 miles de Shorncliffe.
Là, le gentleman et la jeune femme qui l'accompagnaient étaient montés dans une voiture de deuxième classe du train omnibus pour Rugby. Le gentleman avait dit en riant que la jeune fille était sa servante et qu'il allait à la ville avec elle pour l'épouser. C'était un gentleman très bien élevé, ajouta le cocher, et généreux comme on n'en rencontre pas. Cela ne m'étonne pas, murmura Carter. Il donna un shilling à l'homme pour prix de ses renseignements et reprit la voiture qui l'avait amené à la station. Il était près de 7 heures du soir. Wilmot avait donc 48 heures d'avance sur lui. L'agent était complètement découragé. Il gagna Londres par le même train qui, vraisemblablement, avait conduit Wilmot 2 nuits auparavant, et arrivé à la gare de Stone, il employa sa nuit et la journée du lendemain à chercher la trace de son homme. Mais Wilmot n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan de Londres. Le train qu'il avait dû prendre était un train omnibus venant du nord. Une demi-douzaine de gens boiteux accompagnés d'autant de jeunes personnes auraient pu passer inaperçus dans la foule et au milieu du brouhaha de la gare d'arrivée. Carter questionna les surveillants, les receveurs, les facteurs, les cochers, mais personne parmi ces gens-là ne put lui fournir le plus petit renseignement. Au désespoir, il gagna Scotland Yard et raconta sa déconfiture à ses chefs. « Il n'y a plus qu'un moyen de le prendre, dit-il, et c'est par les diamants. D'après ce que j'ai pu savoir, il n'avait pas d'argent sur lui. » Et il a dû convertir quelques-uns de ses joyaux en espèces. Le lendemain, l'avertissement suivant parut dans le supplément du Times. Aux prêteurs sur gage et autres, une bonne récompense sera donnée à toute personne qui fournira des renseignements pouvant amener à la capture d'un homme de haute taille, boiteux, qu'on sait possesseur d'une grande quantité de diamants non montés, et qui a dû, selon toute probabilité, chercher à s'en défaire. Aucune réponse ne fut faite à cet avis. « Ils sont trop fins pour se laisser prendre à cela, monsieur, » fit remarquer à Carter un des fonctionnaires de Scotland Yard. « Quel que soit celui à qui Wilmot a vendu ses diamants, il a dû faire un excellent marché et il n'y renoncera pas volontiers. Les prêteurs sur gage et autres prennent notre avis pour un piège, soyez-en certains. »